This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dakar. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir en Inde, en Corée du Sud et en Russie. Ce sera ailleurs dans le monde avec Michael Thébault. Trump à la Maison Blanche. Notre rendez-vous du lundi avec Frédéric Carbone en direct de Washington. 18h55, l'édito de Vincent Giray du quotidien Le Monde. La Turquie ce soir, brusque montée de température avec l'Allemagne. Et l'Allemagne précisément, première étape ce soir.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
L'Allemagne qui est comme la France en campagne électorale, l'élection aura lieu en septembre prochain. Nous sommes bien placés ici en France pour savoir que 6 mois sont une éternité dans la vie politique. On va donc regarder la situation à l'instant T avec prudence pour essayer de comprendre les dynamiques à l'œuvre dans la vie politique allemande. Hans Stark, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à la Sorbonne, comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI. Et bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Correspondant de France Inter à Berlin. Alors Cyril, dites-nous, précisément à 7 mois des élections, quelle est la situation aujourd'hui à l'instant T ?
Eh ben écoutez, il y a du suspense, et ça c'était inattendu. Il y a encore un mois et demi, l'élection semblait quasiment jouée d'avance pour Angela Merkel, malgré la crise des réfugiés, malgré l'usure du pouvoir, malgré la montée des populistes, elle était la grande favorite parce qu'il n'y avait pas d'alternative. La seule vraie question, c'était avec qui la CDU allait faire alliance pour la prochaine coalition. On n'en est plus là aujourd'hui. Entre-temps, les sociaux-démocrates se sont choisis un candidat surprise, on ne l'avait pas vraiment vu venir. C'est Martin Schulz, l'ancien président du Parlement européen, et son entrée en campagne a complètement rebattu les cartes. Depuis, le SPD fait ses meilleurs sondages depuis 10 ans. Il est maintenant au coude à coude avec la CDU et parfois même devant, ce qui était absolument inimaginable encore en janvier.
Il y a donc, Cyril, un effet Martin Schulz, effet qui s'installe sur la durée.
Et la meilleure preuve, c'est le nombre d'adhésions au SPD qui a grimpé en flèche depuis l'annonce de sa candidature. Il y a aussi beaucoup de monde dans les réunions publiques, les déplacements sur le terrain de Martin Schulz. Une vraie curiosité pour ce personnage qui bouscule un peu le jeu politique allemand avec son style, sa personnalité, son franc-parler. C'est un personnage très différent d'Angela Merkel. Écoutez ce qu'en pense Reinhardt, un Berlinois qui se considère comme un déçu du SPD, et il reprend espoir depuis la candidature de Martin Schulz.
C'est un visage nouveau, il a de l'énergie, des idées, il fait bouger le parti. Grâce à lui, de nouveaux militants s'engagent et c'est important pour le SPD. Je pense que c'est un bon candidat, mais il doit fixer un cap, dire exactement ce qu'il veut faire. Depuis les années Schröder, le SPD, c'est surtout le travail précaire, le dumping social, l'affaiblissement de la classe moyenne. C'est un parti qui a beaucoup servi les intérêts des industriels. Je pense qu'il est temps de déplacer le curseur et se remettre à l'écoute de l'électorat traditionnel des sociaux-démocrates, la classe moyenne, les travailleurs.
Et c'est toute la stratégie de Martin Schulz. Il s'est donné pour thème central la justice sociale, parler sans tabou des sujets qui fâchent, quittera à remettre en question par exemple les effets pervers des réformes Schröder. Aujourd'hui même, d'ailleurs, Martin Schulz devait présenter un projet de réforme de l'assurance chômage pour la rendre plus juste.
Et quelle réaction pour l'instant, Cyril, de l'autre côté, dans le camp d'Angela Merkel ?
Eh ben, il y a du retard à l'allumage. On a vraiment l'impression que la CDU n'est pas encore entrée dans la campagne. C'est Martin Schulz qui donne le tempo et les conservateurs paraissent sur la défensive comme s'ils cherchaient la parade. Angela Merkel a tenté de sonner le réveil des troupes. C'était la semaine dernière en Bavière lors d'une réunion publique. On l'écoute. Angela Merkel, très offensive, qui martèle, nous devons dire, expliquer ce que nous allons changer, nous devons aussi nous appuyer sur notre bilan. Mais la chancelière peut-elle encore mobiliser autour d'elle comme auparavant ? L'Allemagne n'a-t-elle pas besoin d'un nouveau visage, comme le titrait il y a quelques semaines le quotidien Bild ? Le camp conservateur n'a plus vraiment de certitude, il y a eu beaucoup de querelles, de divisions, la crise des réfugiés a déboussolé l'électorat. Alors les ténors de la CDU serrent les rangs, Armin Laschet par exemple, leader du parti en Rhénanie du Nord, ne veut pas croire à la fuite des électeurs conservateurs vers l'extrême droite, comme il le disait hier à la chaîne ZDF.
Dans la plupart de nos circonscriptions, je pense que ça ne jouera aucun rôle. Les élections se gagnent au centre, et à chaque fois qu'Angela Merkel a gagné, c'est en faisant preuve de calme, de sérénité, en démontrant qu'avec elle, le pays est entre de bonnes mains.
insister sur l'expérience d'Angela Merkel, son leadership, sa capacité à défendre, représenter l'Allemagne dans un moment tendu pour l'Europe, pour les relations avec les États-Unis. C'est probablement l'atout majeur d'Angela Merkel pour espérer rempiler pour un quatrième mandat.
Cyril Sauvageau à Berlin. Merci, intervenez Cyril quand vous le souhaitez dans le cours de ce débat. Comment réagissez-vous à ce paysage politique? Là, aujourd'hui, on en parle. Il a bougé par rapport à l'entrée en campagne d'Angela Merkel. Quelle lecture en faites-vous, Hans Stark?
Je m'en réjouis, d'abord de la montée dans les sondages du Parti social-démocrate. C'est un très très vieux parti, il a plus de 150 ans. C'est un parti qui a marqué l'histoire de l'Allemagne très souvent. Et voir ce parti autour de 20% dans les sondages, c'est-à-dire 5 points à peine au-dessus des populistes de droite de l'AFD, ça fait mal au cœur. Donc il est important que ce parti se redresse, comme vous dites, qu'il remonte dans les sondages. On va voir jusqu'où il ira. Il faut bien savoir aussi une chose, aussi pour vos auditeurs, dans toutes les élections en Allemagne, le SPD n'était qu'à deux reprises devant la CDU. C'était en 1972, il y a longtemps, avec l'Ostpolitik de Willy Brandt. Et c'était après les 16 années de Kohl, lorsque Schröder arrive à former une coalition rouge-verte.
Est-ce que la bonne forme, pour l'instant en tout cas, du SPD est alliée avec une forme d'usure du pouvoir d'Angela Merkel, ou ce sont des logiques différentes?
Il y a beaucoup de logiques. Donc bien sûr, il y a de l'usure. Après 3 mandats, 12 ans, ça fait beaucoup. Ensuite, la droite allemande, on parle de l'Allemagne, pas de la France, la droite allemande est très divisée en réalité. Entre la CDU et la CSU, il y a une faille, à savoir le degré de conservatisme en matière de lutte contre l'immigration non contrôlée, en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de valeurs aussi. Angela Merkel a recentré la CDU, certains disent même elle a social-démocratisé au prix aussi de la grande coalition avec la gauche. Et beaucoup de ténors des chrétiens démocrates estiment que finalement, ils ne se retrouvent plus dans ce parti en quelque sorte. Et aujourd'hui, la CSU, qui est donc la branche bavaroise des chrétiens démocrates, veut une affirmation conservatrice classique. Et donc, cela divise profondément ce parti. Vous l'avez entendu à l'instant, les élections se gagnent au centre, mais à force de se concentrer sur le centre, on délaisse la droite de la droite. Et donc, on crée un boulevard pour ce parti populiste de droite qui est l'AFD. Et donc, ça pose un vrai problème aujourd'hui pour la CDU.
Est-ce que ça peut faire, ou ça va faire bouger, ou ça a déjà fait bouger Angela Merkel? Est-ce que pour les élections, elle va quitter justement cette obsession du centre, entre guillemets, pour aller voir vers la droite de son électorat? Et pour lui dire quoi, d'ailleurs?
Si elle quitte le centre, elle va également perdre un peu
c'est
les
difficile.
Élections.
C'est difficile.
C'est un vrai... elle va sans doute essayer
mais
de...
qu'est-ce qu'elle peut dire aujourd'hui à la droite de son électorat?
Elle va sans doute dire à la droite certains choix qu'elle a pris dans le passé, la sortie du nucléaire, par exemple, ou la tolérance par rapport aux minorités homosexuelles, tout ça, on ne revient pas là-dessus, c'est maintenant acté. En revanche, éventuellement, là, je pense, elle va montrer à la frange conservatrice de son parti que l'Allemagne n'a pas perdu le contrôle sur les questions d'immigration, ni sur la gestion des centaines de milliers de demandeurs d'asile à qui on n'a pas reconnu le droit d'asile, et aujourd'hui se pose la question de leur reconduction, de leur refoulement, comme on dit un peu vulgairement aujourd'hui en Allemagne. Donc elle va sans doute montrer une certaine fermeté à cet égard, notamment aussi après les attentats de Berlin. Donc elle va, à mon avis, jouer sur ce tableau-là pour montrer qu'elle a encore le contrôle de la situation et qu'elle saura se montrer ferme. Mais pour le reste, à mon avis, elle va quand même essayer de maintenir ses choix centristes.
On va revenir à la gauche dans quelques instants, mais encore quelques questions générales sur le climat politique en Allemagne. Est-ce que l'attentat de Berlin a changé les choses? Est-ce que dans le débat public, dans l'atmosphère démocratique de ce pays, l'attentat a fait basculer des gens, a changé l'état d'esprit?
L'attentat a confirmé une orientation des Allemands vis-à-vis de l'islam radical, vis-à-vis aussi de certaines catégories d'immigrés. Les trois quarts aujourd'hui dans les sondages des Allemands estiment que cette politique d'ouverture des frontières aussi massive, presque 900 000 personnes, a été une erreur et qu'il faut revenir là-dessus. Ceci étant dit, il faut savoir de quoi on parle. On maintient aujourd'hui malgré tout un seuil, une porte, même d'au moins 200 000 par an d'immigrés, ce qui est quand même non négligeable, y compris compris la CSU bavaroise, elle qui mène une politique très dure, qui veut une politique dure en matière d'immigration, se dit ouverte à un seuil de 200 000, ce qui est quand même considérable,
voilà, oui, bien sûr.
C'est considérable, exactement. Donc ça veut dire qu'on ne va pas complètement fermer non plus les portes, mais il y aura une politique différente par rapport à la welcome culture que l'Allemagne avait manifestée entre septembre 2015 et mars 2016. Donc là, on a déjà une traduction dans les faits du changement de climat aujourd'hui en Allemagne. Ensuite, la question aussi de la sécurité intérieure. Enfin, là, on ne peut pas trop reprocher à Mme Merkel de n'avoir pas été à la hauteur, puisque le problème en matière de sécurité, c'est une question d'investissement d'abord. Sans doute, on les a trop fait baisser. Et surtout, c'est aussi une question de faiblesse qui est liée au système fédéral de l'Allemagne, puisque la police, la justice, les affaires intérieures relèvent des Länder, et les Länder ne coopèrent pas assez entre eux, notamment s'il s'agit de Länder gouvernés à gauche ou gouvernés à droite. Donc là, le gouvernement fédéral est entre toutes les chaises. On ne peut pas le reprocher à Mme Merkel, mais néanmoins, sa perte de popularité dans les sondages relève aussi de cette question-là.
Hans Stark, comment l'Allemagne, qui est une robuste démocratie réflexive, apaisée, réagit aux charges de Donald Trump, qui critique ouvertement la politique migratoire d'Angela Merkel, ouvertement le modèle économique allemand, ce qu'il induit en termes de déséquilibre économique au sein de l'Europe et au sein du monde?
D'abord, je pense que de ce point de vue-là, les Allemands sont assez déboussolés. Un, parce que la défection américaine sur la scène internationale fait peser une charge supplémentaire sur les épaules d'Angela Merkel, à qui on demande maintenant de prendre un peu le leadership, en tout cas en Europe, voire peut-être dans le monde occidental, avec le Brexit, et attendant les élections en France, ça pourrait se confirmer aussi en cas de tragédie le 7 mai, évidemment. Donc ça, c'est un premier point. Or que les Allemands, notamment sur le plan militaire, ne s'engagent pas assez, ne dépensent pas pour le moment assez. Ils ont une armée qui est sous-financée et sous-équipée. Ça, c'est un premier point. Un deuxième, c'est que les Allemands sont évidemment très attachés depuis des décennies au multilatéralisme, notamment commercial. D'ailleurs, ils en profitent énormément. Il faut savoir que l'excédent commercial allemand frôle les 250 milliards d'euros par an, et l'équivalent de presque 9% du PIB, ce qui est absolument extraordinaire. Et la critique américaine, qui d'ailleurs enseigne, elle est antérieure à celle de Trump, par rapport à la politique commerciale de l'Allemagne, s'attache à ce chiffre-là. Et en effet, là, nous avons un petit problème en Allemagne, parce que ça crée des déséquilibres, et aussi bien à l'échelle européenne qu'à l'échelle internationale.
Cyril Sauvageau à Berlin.
Non, ce qui semble évident, c'est que ces questions-là de l'Europe et l'avenir de l'Europe et les relations avec les États-Unis, tout ça va jouer aussi un rôle majeur dans la campagne électorale ici en Allemagne, parce que tout le monde est d'accord pour dire, par exemple sur l'Europe, que le statu quo n'est pas une solution, qu'il faut un nouveau souffle, qu'il faut un nouveau projet. Et là, il y a deux visions qui vont s'affronter, pour parler un instant des candidats. Martin Schulz, par exemple, a souvent critiqué dans le passé la politique d'austérité. On peut penser qu'il va attaquer Angela Merkel sur ce sujet, sur son bilan européen, et il sera intéressant de voir comment aussi Angela Merkel va faire évoluer sa propre position, puisque Martin Schulz, pour lui, d'être expérimenté au plan européen, d'être, on va dire, assez crédible sur ces questions-là.
Et donc, Martin Schulz et une partie de la gauche, ça on l'a entendu, corrigez-moi si je me trompe, Cyril Sauvageau, indique que c'est la politique d'austérité voulue par l'Allemagne qui a été le carburant d'un certain type de populisme en Europe.
Sans aucun doute, puisque les difficultés que la politique d'austérité allemande avait provoquées dans son excès, aussi bien en Grèce qu'en Italie, en Espagne avec Podemos, en France, où il y a quand même une majorité aujourd'hui de candidats à la présidentielle qui sont en rupture avec les engagements européens de la France, tels que la politique européenne a été conçue et menée ici à Paris depuis des décennies, cela montre quand même que la politique allemande, quelque part, suscite des résistances et des interrogations. Et l'Allemagne aurait vraiment tout intérêt à réfléchir sur ces questions, parce que, à force de vouloir avoir raison, il est vrai que la dette publique, on ne peut pas la nier. Il est vrai que si une bonne gestion budgétaire est absolument nécessaire, et la compétitivité des industries, comment est-ce qu'on peut être contre cela? Cependant, tout dépend du bon dosage, du timing,
de l'effort à demander, des effets politiques,
et économiques. Et donc là, en effet, on est devant un désastre politique. politique, en particulier si en France l'élection va vers le Front National.
Alors, la question que je vais vous poser est difficile déjà pour nous Français. Quelle est la ligne politique, non pas du Parti Socialiste, mais du SPD aujourd'hui ?
Alors, le SPD s'est sacrifié durant les années Schröder avec cette fameuse agenda social des lois dites Hartz IV qui avait profondément réformé la politique sociale à un moment où l'Allemagne avait un taux de chômage élevé, 11-12%, 5 millions de personnes, et où surtout l'Allemagne ne pouvait plus financer les indemnités de chômage. Donc on ne revient pas sur cette politique sociale. Elle a permis d'un côté à l'Allemagne de gagner beaucoup en termes d'emploi. Le chômage a reculé. Aujourd'hui, il est en dessous de 5%. C'est un score fantastique. Cependant, les emplois gagnés sont souvent des emplois précaires. Mmh. Et aujourd'hui, finalement, le SPD a payé cela, non en étant exclu du pouvoir, puisque le SPD est resté au pouvoir de 2005 à 2009, et puis il est revenu en 2013. Ce qui veut dire que le SPD, finalement, gouverne avec la CDU depuis très longtemps. Mais il a vendu son âme. Et aujourd'hui, Scholz revient là-dessus. Il reconnaît peut-être que le bien fondé de la décision prise par Schröder en 2003-2004 pour l'adoption de ces réformes. Mais aujourd'hui, vu la bonne santé économique de l'Allemagne, étant donné aussi l'évolution des salaires et l'ouverture des ciseaux entre les classes supérieures et les classes moyennes et puis les classes défavorisées, il insiste sur le fait qu'il faut revenir là-dessus et voir les choses un peu autrement. Donc, faire montrer plus de générosité sur le plan social pour les chômeurs de longue durée, pour les personnes âgées qui sont encore actives mais au chômage, et surtout pour les bas salaires. Et ça, évidemment, ça plaît beaucoup aux électeurs du SPD. Et le résultat, et je termine, c'est qu'aujourd'hui, le SPD a pris presque 10% dans les sondages et les populistes d'AFD en ont perdu 5%.
Cyril Sauvageot sur le SPD.
C'est exactement ce que je voulais ajouter. Le fait que ce discours que le SPD ne tenait plus et que tient aujourd'hui Martin Schulz, et aussi son franc-parler, sa façon de parler vrai, de dire vraiment les choses, on sent déjà que ça parle à l'électorat populaire. Et effectivement, un des phénomènes significatifs de ces dernières semaines, c'est que l'AFD est en baisse assez sensible dans tous les sondages par rapport aux semaines ou aux mois précédents. Ça peut aussi être un effet indirect de l'entrée en campagne de Martin Schulz.
C'est intéressant de voir, ce sera ma dernière question, Hans Stark, que le SPD a la capacité de rebondir en dépit de sa présence dans les grandes coalitions depuis des années, c'est-à-dire de faire en quelque sorte rupture avec lui-même.
Exactement, il est au pouvoir depuis donc pratiquement son discontinuité depuis 1998, mis à part la petite parenthèse entre 2009 et 2013. Ça, c'est un premier point. En plus, Scholz n'est pas un homme de l'antisystème en tant que président du Parlement européen.
On a l'impression que c'est une figure familiale de la vie politique européenne.
C'est pas un Pepe Grillo, en quelque sorte. Donc c'est quelqu'un qui a profité, entre guillemets, du système. Mais c'est un homme qui plaît parce qu'il a ce franc-parler, parce qu'il vient aussi d'origine modeste. Il n'a pas de baccalauréat et il ne le cache pas. Il a connu des moments très difficiles en tant que jeune adolescent. Il a failli sombrer dans l'alcoolisme. Il a surmonté tout cela, donc il a une force de caractère extraordinaire. Et puis finalement, il s'est éduqué lui-même. Aujourd'hui, il est polyglotte. Il a fait une carrière en Europe. Et ce qui est très plaisant dans tout ça, c'est qu'on peut être européen, ancien président du Parlement européen, et malgré tout, plaire à l'électorat. C'est possible.
C'est possible et c'est passionnant. Merci Hans Stark d'être venu débattre avec nous de l'élection qui se joue chez vous. J'imagine que vous regardez la France avec attention.
Et effroi.
Merci pour ça aussi. Professeur à la Sorbonne, comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI. Merci Cyril Sauvageot, correspondant de France Inter à Berlin. Dans quelques instants, Michael Thébault, le journal de l'International. Et Amy Winehouse sur Inter. Trouble. To Black, Amy Winehouse sur Inter, 18h38.
20 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, le journal de l'international avec Michael Thébault. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer Michael, direction l'Inde. L'Inde apparemment bien partie pour réussir son pari solaire.
Et pourtant pari très ambitieux, le voici. Que 40% de son énergie consommée soit d'origine renouvelable d'ici à 2030. Promesse faite par New Delhi lors de la COP21 à Paris. Et pas facile quand on sait que l'Inde est aujourd'hui le troisième émetteur de gaz à effet de serre au monde. Que sur les 20 mégalopoles les plus polluées de la planète, 13 sont indiennes et avec le boom économique, la demande en énergie est bien sûr chaque année plus forte, particulièrement en électricité. Or, un quart de l'électricité reste produite grâce aux seules centrales à charbon ultra polluantes. La solution retenue est donc le soleil, multiplié par 25 en 7 ans seulement sa production solaire. Bonjour Sébastien Farcy en direct de Delhi.
Bonjour.
Alors cette révolution solaire est déjà en marche. Illustration, Sébastien, dans le sud du pays, visite de l'une de ces toutes nouvelles fermes solaires.
Oui, nous sommes ici à 140 km de la cité des nouvelles technologies de Bangalore, dans le sud du pays, et loin, très loin de son urbanisation effrénée. Cette campagne de l'état de l'Andhra Pradesh est aride, elle ne reçoit que quelques jours de pluie par an. Des conditions difficiles pour l'agriculture, mais parfaites pour récolter l'énergie du soleil. C'est ici en effet que Acme, l'une des deux plus grandes entreprises du secteur en Inde, a déployé plus de 350 000 panneaux solaires. Cette ferme d'une capacité de 50 MW distribue ainsi de l'électricité à 100 000 foyers ruraux sur 30 km aux alentours. Dinesh Reddy est le responsable enthousiaste de ce parc géré par seulement 15 employés à temps plein.
Construire une centrale solaire, ça requiert beaucoup de main-d'œuvre. En Inde, nous en avons assez, donc nous pouvons bâtir une centrale de 50 ou 100 MW en 3 à 6 mois. Le plus long, c'est de se procurer le matériel, car les modules viennent de Chine. Mais c'est ensuite très facile à entretenir, comparé à n'importe quelle usine de production d'électricité. En fait, la majorité des problèmes, ils viennent des câbles. Nous devons également nettoyer ces modules 3 fois par mois pour enlever la poussière.
Voilà, et cette centrale est l'une des dizaines qui ont poussé comme ça en à peine plus d'un an.
En effet, en septembre dernier, par exemple, la multinationale indienne Adani a ouvert la plus grande centrale solaire du monde dans le sud de l'Inde. Elle fournit de l'énergie à 150 000 foyers pour 648 MW installés. En tout, le pays a multiplié par 2 en un an ses capacités photovoltaïques qui atteignent maintenant 10 gigawatts, ce qui place l'Inde au 7e rang mondial, devant la France. Ceci a été possible grâce à une politique publique agressive d'incitation fiscale et d'enchères compétitive, ainsi qu'à une baisse rapide du prix mondial des équipements. Et tout cela a fait chuter le tarif du solaire indien de 24% en un an et en a fait dans certaines régions l'énergie la moins chère. Écoutez les explications de Vinay Rustagi. Il est le directeur d'une société de conseil en énergie renouvelable appelée Bridge to India.
L'énergie renouvelable est en train de devenir financièrement attrayante car son coût chute en dessous de celui de l'électricité issue du charbon importé. Et c'est ce qui devrait entraîner leur croissance de manière durable. C'est le contraire de ce qui est arrivé en Occident, où les énergies renouvelables ont été encouragées par des subventions. Et quand ces dernières ont baissé, la croissance du renouvelable s'est complètement arrêtée.
Bon alors maintenant, évidemment, la question, Sébastien, l'Inde peut-elle, oui ou non, réussir son pari de la COP21?
Oui, Michael, la plupart des observateurs sont très confiants sur ce point. L'Inde devrait réussir à produire environ 40% de son électricité à partir de sources renouvelables, principalement solaires, d'ici à 2030, ce qui représente un changement drastique dans un pays aujourd'hui tellement dépendant du charbon. Cependant, pour cela, il faudra également rapidement réformer le vieux réseau de transmission, car l'énergie renouvelable, qui dépend du climat, est très instable. C'est ce qu'explique à nouveau Vinay Rustagi.
Prenons une journée d'été à son pic. 10 gigawatts d'énergie solaire sont produites, mais soudain, s'il y a un gros nuage, toute cette énergie tombe et les autres sources, thermiques ou nucléaires, doivent rapidement prendre le relais. Cela crée d'énormes tensions dans le système de génération et de transmission de l'électricité. C'est pour cela que vous avez besoin de beaucoup de systèmes intelligents pour gérer ces incertitudes, et d'importants investissements sont donc nécessaires pour pouvoir intégrer autant d'énergie renouvelable dans le réseau.
Pour remédier à ce problème, les pays occidentaux ont par exemple introduit plus de gaz dans leur mix énergétique, car cette source peut rapidement démarrer pour prendre le relais du solaire ou de l'éolien.
Sébastien Farcy, correspondant de France Inter à New Delhi. Merci.
Et petit coup d'œil maintenant à la campagne présidentielle française, vue de l'étranger, Michael.
Ouais, avec notamment cet édito au vitriol de nos confrères belges du soir. Édito mis en ligne il y a quelques minutes et intitulé « La France plus fracturée que jamais ». Mais où est donc passée cette union nationale de la France d'après les attentats de 2015, se demande le quotidien. Réponse, il a fini de se fracasser dans un combat présidentiel d'une violence aussi inouïe qu'inédite. Ce ne sont plus les adversaires de toujours qui se tournent le dos ou se divisent sur des programmes. Ce sont des familles politiques entières qui se sont déclarées une guerre intestine. À gauche, elle est déjà profonde mais encore larvée. Les armes sans doute ne sortiront vraiment qu'après la défaite annoncée. Mais à droite, elle est désormais ouverte et impitoyable. Hier au Trocadéro, écrit l'éditorialiste, François Fillon a vu en ses soutiens le peuple de la France, des paysans, des sans-culottes, des châteaux et des cathédrales. Cela se sent désormais investi d'une résistance contre d'autres Français. On se pince pour se convaincre qu'on vit en 2017. Et un peu partout dans la presse étrangère, c'est la même tonalité. Ce soir, Alain Juppé ayant catégoriquement refusé ce matin d'être le plan B de la droite et du centre, eh bien François Fillon ressemble de plus en plus à un candidat posthume, estime The Telegraph. Hier déjà, son compatriote dominical The Observer parlait d'une crédibilité en miettes. Situation qui, je cite toujours, ouvre un boulevard à la toxique Marine Le Pen. Presse britannique qui ne voit donc qu'un seul rempart, a priori possible, Emmanuel Macron. Eh bien, pas du tout, l'avis de l'allemand Die Zeit, selon qui le leader d'En Marche n'est qu'un double un peu moins absurde du président Hollande. À en juger par ce qui lui tient lieu de programme, il sait encore moins comment faire entrer la France dans le 21e siècle que le désastreux président actuel. Fin de citation.
Et pour finir, deux infos en bref, Michael. La première en provenance de Corée du Sud.
Avec un chiffre, 815 000 euros, c'est la somme désormais promise par Séoul aux ressortissants nord-coréens qui accepteraient de fuir et surtout de trahir le régime de Pyongyang. Ne sont donc concernées que les personnalités nord-coréennes de haut rang, susceptibles évidemment de fournir de précieuses informations sur le régime, entourage du dictateur, informations militaires ou économiques. Une récompense proposée depuis plusieurs années déjà, mais qui jusqu'ici avait fait peu d'émules. Il faut dire que les autorités sud-coréennes ne proposaient que 200 000 euros, promesse donc aujourd'hui quadruplé. Enfin là, il ne s'agit pas d'une promesse, mais d'une proposition très sérieuse, celle d'un député russe, Igor Lebediev, membre du comité d'organisation de la Coupe du Monde de football 2018, mondial qui se jouera, vous le savez, en Russie. Et Igor Lebediev pense avoir trouvé la solution pour éviter ça. Voilà la solution pour éviter ce genre de bataille rangée entre supporters, ou plus exactement entre hooligans. Ici en l'occurrence des affrontements en plein centre de Marseille entre hooligans russes et anglais, c'était lors de l'Euro 2016 en France. Eh bien, notre député russe propose de transformer ces bagarres, organisées en marge des matchs, en compétition à part entière. Un sport, dit-il, encadré par les forces de l'ordre pour canaliser la violence des supporters. Et il explique, les supporters anglais arrivent par exemple et commencent des bagarres. On leur répond, défi accepté, rendez-vous au stade à telle heure et tout se passera bien. D'autant qu'en Russie, nos fans de foot, poursuit-il, sont des combattants et pas des hooligans comme les Britanniques. Igor Lebediev, député et membre du parti d'extrême droite LDPR. À demain.
À demain, Michael.
The 45th president of the United States of America, Donald J. Trump.
Un jour dans le monde.
And God bless America.
Sur France Inter.
18h47, Donald Trump à la Maison-Blanche. Notre rendez-vous du lundi avec Frédéric Carbone en direct de Washington. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Alors un week-end somme toute assez classique hein, chez vous, avec un ouragan politique déclenché par Donald Trump.
Effectivement, le déluge de tweets, désormais classique du samedi matin. J'ai été mis sur écoute par Barack Obama, c'est le Watergate, c'est digne du macartisme. Tout cela sans le moindre conditionnel, sans la moindre preuve affichée. Et comme cela est déjà arrivé, vous vous souvenez du fantasme de la menace terroriste en Suède ou des soi-disant millions d'électeurs illégaux de la présidentielle. Eh bien, tout part encore de théories relayées par des médias conservateurs. En l'occurrence, voici ce que disait très récemment Mark Levin, l'animateur d'une radio très influente.
Combien de coups de téléphone donnés par Donald Trump et par des officiels chargés de la politique étrangère et de la sécurité nationale ont-ils été interceptés et enregistrés par l'administration Obama? Ça, mesdames et messieurs, c'est le véritable scandale.
Donald Trump a donc entendu cela ou lu le compte-rendu qu'en a fait le site Breitbart, dirigé jusqu'à peu par son conseiller Steve Bannon vendredi dernier, d'où sa colère de samedi matin. Et son entourage, en l'occurrence une de ses porte-paroles, Sarah Sanders, ne le cache même pas, elle ne met pas en avant des preuves fiables recueillies par le président américain. On l'écoute.
Il est tombé sur des informations qui l'ont amené à penser que c'est probablement vrai, et si c'est le cas, c'est le plus important abus de pouvoir que nous n'ayons jamais vu, et une attaque contre la démocratie. Donc les Américains ont le droit de savoir si cela s'est produit.
Et comme souvent, Frédéric, après la tempête, ce sont tous les collaborateurs de Donald Trump qui ont sorti les rames.
Oui, et ça c'est le travail du reste du week-end. Comment habiller ce courroux présidentiel? La presse américaine décrit un Donald Trump furieux avant de partir à Mar-a-Lago de l'ampleur du nuage russe au-dessus de son administration, mécontent de la réaction trop molle après la mise en cause de son ministre de la Justice et prenant la décision de lancer ses accusations sans en parler à aucun de ses conseillers. Donc ensuite, on formalise tout cela en demandant au Congrès d'enquêter, de rajouter ce volet à l'épais dossier du piratage russe de la campagne électorale américaine. Mais les élus, comme le sénateur républicain Marco Rubio, ne savent pas vraiment ce qui les attend maintenant.
Je ne sais pas exactement de quoi il parle. Si c'est vrai, nous devons le savoir très vite. Et si c'est faux, il devra s'expliquer. Je ne connais donc pas l'origine de cette affaire, mais j'imagine qu'on en saura plus dans les jours qui viennent.
Bon, vous le voyez, les républicains ne cachent pas leur embarras. Donald Trump, d'ailleurs, paraît-il, est fâché de la prise de distance quasi unanime hein, face à ces accusations. D'autant que les démentis, eux, sont cinglants. Barack Obama, très vite, évidemment, par un communiqué de son porte-parole, mais également des acteurs essentiels du secteur du renseignement. Voici par exemple James Clapper, directeur justement du renseignement jusqu'à ces derniers jours. Il est sans ambiguïté sur la chaîne NBC.
Je peux démentir. Ce que j'en dirais, c'est que dans mon domaine du renseignement, il n'y a eu aucune écoute montée contre celui qui était à l'époque le candidat Trump ou sa campagne.
Et cela va même plus loin. D'après de nombreux médias, l'actuel patron du FBI, l'organisme qui mène l'enquête, qui réclame d'éventuelles écoutes sur la base de faits précis, il souhaite, lui, que soient contredites les affirmations de Donald Trump. Il en a fait la demande au ministère de la Justice qui aurait refusé d'infliger ce camouflet au président américain.
Et puis Frédéric, la diversion est classique, mais elle est toujours efficace. Trump a tapé fort sur son prédécesseur, Barack Obama.
Absolument, vous avez raison de parler de diversion, Nicolas. De fait, ces dernières heures, même avec tous les bémols que vous avez entendu, et ils sont nombreux, on parle de cette théorie complotiste sur les écoutes et beaucoup moins des contacts entre des officiels russes et l'équipe de Donald Trump, et cela réjouit le président américain. Et puis oui, dans son électorat, la cible Obama, elle est toujours bienvenue. Vous n'avez pas oublié que Donald Trump a construit une partie de sa popularité en s'obstinant contre toute évidence à contester la citoyenneté américaine de l'ancien président. Ce n'est que juste avant l'élection qu'il a reconnu les faits. Et là, bien sûr, il est suivi
par la grande majorité de ses électeurs. Écoutez Wendy qui participait ce week-end à un rassemblement pro-Trump à Washington.
Il est clair qu'Obama a essayé de saboter l'administration Trump. Ce dont ils accusent Trump est bidon. Mais eux, ils ont collaboré avec les Russes. Ils essayent de manipuler les Américains et nous, le peuple, nous n'en pouvons plus d'être manipulés. Et c'est pour cela que nous sommes dans le camp de Trump, parce qu'il nous représente.
Alors, ils n'étaient pas très nombreux hein, devant la Maison Blanche, quelques centaines, mais il y avait des pancartes Obama en prison et je suis tombé sur une seule personne expliquant que tout cela le gênait un peu. Je suis sans doute, me disait cet homme, l'électeur de Donald Trump le plus perturbé par l'enquête russe. Parce qu'il faut quand même le constater, Nicolas, même en faisant diversion, même en rajoutant de la confusion encore plus et en suggérant que tout le monde espionne tout le monde, Donald Trump, par ses accusations, alimente ce fameux dossier russe.
Et pendant le typhon, pour finir, Frédéric, les futurs ministres continuent à être auditionnés. Et comme disait Jacques Dutronc, je retourne ma veste, mais toujours du bon côté.
Oui, allégeons un peu tout cela de la vraie politique comme Olem, c'est vrai. Et ça permet d'ailleurs d'obtenir des postes, et en l'occurrence, la validation devant le Sénat. Vous savez que c'est ce qu'il faut pour devenir ministre. Je vous présente donc le nouveau secrétaire à l'énergie. Il vient d'être confirmé, Rick Perry, ancien gouverneur du Texas. Il avait réclamé la fermeture du département pour lequel il est candidat. Théoriquement, ça aurait dû lui fermer la porte quasi automatiquement. Mais non, il suffit de changer d'avis.
Ma déclaration passée, qui remonte à 5 ans sur la suppression du département de l'énergie, ne reflète pas mon état d'esprit actuel. En fait, après avoir été informé des fonctions vitales de ce département, je regrette d'avoir demandé son élimination.
Bon, Nicolas, je n'irai pas jusqu'à dire que cela fait penser à d'autres volte-face aux États-Unis ou ailleurs, mais parfois, il suffit de dire avec le même aplomb l'inverse de ce qu'on affirmait, et le tour est joué. Rick Perry, en l'occurrence, a été un des ministres de Donald Trump qui a obtenu le plus de voix pour la confirmation au Sénat.
Frédéric Carbone, en direct de Washington, merci.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
Et place à l'édito de Vincent Giray du quotidien Le Monde. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Vous nous emmenez ce soir en Turquie où le président Erdogan s'en prend très vivement à l'Allemagne, Vincent.
Oui Nicolas, et disons-le avec une certaine gravité, il semble qu'il n'y ait plus vraiment de limite au pays du Bosphore. Et cela en dit long à la fois sur l'extrême fébrilité et sur la dangerosité du pouvoir turc. Écoutez plutôt ce que vient de dire ce week-end le président Recep Erdogan dans un meeting électoral devant ses partisans chauffés à blanc, interpellant ainsi le gouvernement allemand. Vos pratiques, dit-il, ne sont pas différentes de celles des nazis. Je pensais que le nazisme était fini en Allemagne. Malheureusement, ça continue. Vous nous donnez des leçons de démocratie et vous empêchez nos ministres de s'exprimer chez vous. Et le président turc d'ajouter, menaçant, si je veux venir en Allemagne, je le ferai. Et si vous ne me laissez pas passer par vos portes, si vous ne me laissez pas parler, alors je ferai se dresser le monde contre vous. Fermez les guillemets. Il faut un peu se pincer pour y croire. Le choc et l'émotion sont énormes en Allemagne. Jamais sans doute depuis la Seconde Guerre, un président d'un grand pays n'avait osé tenir des propos si violents et si scandaleux à l'encontre de dirigeants allemands.
Et qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres, Vincent ?
Alors, un référendum décisif doit se tenir en Turquie dans 40 jours. Nicolas, la campagne bat son plein et le résultat semble très incertain. Si l'on en croit les derniers sondages, les Turcs doivent se prononcer sur l'ultime tentative de leurs dirigeants, de plus en plus autocrates, pour s'octroyer tous les pouvoirs grâce à une réforme constitutionnelle instaurant un régime présidentiel qui concentrera demain, plus encore qu'aujourd'hui, tous les pouvoirs entre les mains de Recep Erdogan. Chaque voix va compter. Il y a en Allemagne 1,5 million de Turcs, particulièrement cajolés par le parti islamo-conservateur. Et pour mobiliser les électeurs potentiels, Ankara avait décidé d'envoyer deux de ses ministres battre la campagne, le ministre de la Justice et le ministre de l'Économie. Seulement voilà, plusieurs villes allemandes se sont opposées à la tenue de tels meetings dans leur agglomération. Du coup, colère du président Erdogan, dont le nationalisme ultra et la dérive politique inquiètent de plus en plus la communauté internationale. Rappelons qu'après une sombre tentative de coup d'État, pas vraiment élucidée à ce jour, une répression sauvage s'était abattue sur la Turquie. 40 000 personnes ont été emprisonnées, des médias ont été fermés ou sévèrement réprimés. Une immense purge a rejeté au banc de la société quelques 125 000 fonctionnaires ou salariés, enseignants, diplomates, magistrats, policiers, journalistes. Une chape de plomb s'est abattue sur le pays, mais il reste malgré tout dans ce pays, si l'on en croit les sondages, une une société civile qui courageusement et dans le secret des urnes est prête à s'opposer au rêve fou et mégalomaniaque du président Erdogan. En tout cas, l'affaire ne semble pas gagnée, si tant est que le scrutin se déroule à la loyale.
Alors comment ont réagi Vincent, Angela Merkel et les dirigeants allemands?
Alors c'est une provocation, un piège bien sûr, que tant le président turc au gouvernement allemand. Angela Merkel s'est bien gardée pour l'instant de toute réaction à chaud, laissant l'initiative aux responsables des partis de la coalition au pouvoir. L'un d'entre eux a donc dénoncé le dérapage scandaleux du despote du Bosphore. Un autre s'est élevé contre les insultes et l'arrogance du président turc. Mais la chancellerie prend bien garde de ne pas mettre de l'huile sur le feu. D'une part, pour ne pas risquer de radicaliser l'importante communauté turque qui vit en Allemagne sans jamais avoir posé vraiment de problème majeur. Et pour ne pas risquer aussi une escalade à l'issue imprévisible. Alors que l'Allemagne a noué, on le sait, un accord avec Ankara il y a près d'un an pour réduire les flux migratoires vers l'Europe. L'Allemagne et l'Europe ont besoin de la Turquie sur ce dossier explosif. Erdogan le sait, il se permet donc de tirer sur la corde. Il prend toutefois le risque de s'exposer à des sanctions, d'autant que l'Allemagne aussi est en campagne électorale et que plus de 80% des Allemands estiment que le gouvernement est trop complaisant désormais à l'égard d'Ankara. Ce dossier va donc empoisonner la campagne, c'est une épine de plus dans le pied d'Angela Merkel, d'autant que les partis de gauche demandent eux aussi désormais plus de fermeté vis-à-vis de la Turquie. Et il serait bon que les partenaires de l'Allemagne, tout comme la Commission européenne également, sortent du silence et affichent le plus vite possible une solidarité sans faille avec nos voisins allemands.
Vincent Giray du quotidien Le Monde, merci. À 19h20, le téléphone sonne ce soir sur la droite dans l'élection présidentielle. Encore une semaine, un week-end et un lundi de fortes turbulences. François Fillon se maintient. Alain Juppé passe la main une bonne fois pour toutes. C'était ce matin dans une conférence de presse. Et il critique en même temps son camp, la radicalisation, dit-il, d'une partie de l'électorat LR. Les centristes de l'UDI refusent toujours de travailler avec François Fillon et l'hypothèse d'une droite absente du second tour est clairement évoquée par la droite elle-même. Alors pour en débattre tout à l'heure au téléphone sonne, nous serons en compagnie de Jérôme Jaffré qui est politologue, directeur du Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique, de l'ancien député européen Jean-Louis Bourlange et de Raphaël Glucksmann, essayiste, auteur de Notre France, Dire et aimer ce que nous sommes, c'est aux éditions Alary. Pour intervenir au téléphone sonne, vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr via Twitter avec le mot-clé Telson. Deux rendez-vous demain dans le 7-9 de Patrick Cohen à 7h50. C'est Michel Vinocq, l'historien, auteur de La France républicaine chez Robert Laffont, qui sera l'invité d'Alexandra Ben Saïd. Le président Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher, sera lui l'invité de Patrick Cohen.